Safine Bou, bonjour. Donc,
bonjour.
vous nous présentez Celle que vous croyez, qui sort le 6 mars en Belgique. Il s'agit d'adaptation du livre de Camille Lorenz, et qui est sorti en 2016. Et vous avez eu l'occasion, par je ne sais quel truchement, vous allez nous expliquer, l'occasion de le lire avant sa sortie en librairie. Là.
Ouais, ça nous arrive souvent, nous, quand metteurs en scène, quand on cherche un peu des sujets, d'être en rapport avec des éditeurs qui, quand ils sentent qu'il y a un potentiel de cinéma et peut-être un sujet qui pourrait nous intéresser, nous envoient les livres. Moi, j'avais lu dans une petite gazette chez Gallimard le pitch d'une certaine manière du roman, et j'ai tout de suite eu le sentiment qu'il fallait que je lise, donc je l'ai lu rapidement et j'ai tout de suite eu envie d'en faire un film.
Et finalement, après, les pour convaincre l'auteur, comment ça se passe?
En général, alors ça a été le cas...
Dans le cas ici, avec Camille.
Voilà, il y a eu beaucoup de propositions, en fait. Camille a eu beaucoup de propositions, d'autres metteurs en scène, des actrices aussi, qui se sont intéressées au projet. Donc elle a pris le temps, ça a duré 4 mois, de rencontrer les uns et les autres, d'entendre et d'écouter les projets des uns et des autres, des directions, des points de vue. Et puis, j'ai eu la chance qu'elle me choisisse pour que je puisse mettre en scène et écrire avec Julie Perle le scénario...
Julie, qui avait déjà travaillé notamment un des derniers films, c'était Fantômes d'Ismaël. Quels ont été les écueils que vous avez rencontrés lors de l'adaptation du roman de Camille Lorenz?
La difficulté, sans trop en dire, c'est un film qu'on pourrait appeler construit en tiroir, en poupée gigogne, sur plusieurs strates, vérité, mensonge, réalité, virtualité. Donc finalement, ce qui a été peut-être le plus dur, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça et de faire que le spectateur se perde, mais ne se perde pas complètement. Mmh. C'est-à-dire qu'il soit toujours au bord de la falaise, qu'il y ait une forme de
c'est le cas de le dire, puisqu'il y a une superbe vue là quand même.
À un moment donné, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a cette vue. Hein. C'est en dehors de la puissance de l'image, mais ça raconte aussi quelque chose dans le film à ce moment-là. Mais parce qu'il y a quelque chose de vertigineux, d'une certaine manière, dans cette histoire et dans notre rapport, et le rapport qu'on peut tous avoir aux réseaux sociaux. Et c'est ce vertige quoi, qu'il a fallu à la fois rendre et en même temps équilibrer quoi, dans le scénario.
Est-ce que vous faites un grand tableau avec éventuellement des lignes, et puis vous repartez, vous scindez éventuellement? Comment vous avez procédé?
Alors, parfois oui, il n'y a pas de règle. Hein. Chaque projet, en fonction de la collaboration, là c'était particulier. Et c'est que j'ai écrit ce scénario à distance. Déjà, donc il y avait de Celle que vous croyez.
Merci Internet.
Voilà, j'ai travaillé par Skype. Il se trouve que Julie Perle vit à Los Angeles, et que donc on a travaillé plus d'un an et demi à distance. Alors on avait des séances. Le plus difficile, c'était les zones horaires, parce que évidemment les calages faisaient que il fallait que moi je travaille un peu tard le soir. Mais on a travaillé à distance. Donc on a travaillé par étapes, en s'envoyant mutuellement des directions. On a d'abord fait un traitement et puis on a structuré. Mais le scénario est assez complexe et à la fois, il fallait qu'il soit très lisible. Donc, c'est toujours... Mais c'était amusant comme ça. On s'est très peu vu, en fait, réellement. Donc, on a travaillé un peu virtuellement.
Alors justement, on parle d'usurpation d'identité. Claire, qui est le personnage interprété par Juliette Binoche, donc se crée une nouvelle vie grâce à Internet. Et finalement, on peut quand même considérer que tout le monde, actuellement, le fait, que ce soit avec du Photoshop, dans plus ou moins grande mesure. C'est un sujet qui touche vraiment tout un chacun.
Alors voilà, tout le monde le fait. En même temps, il n'y a pas eu vraiment de film sur ce sujet-là. Ah. Et c'est pourquoi le tout le monde le fait m'a intéressé, parce que j'y ai vu une dimension sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, et surtout le dysfonctionnement dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas encore vraiment. Par contre, on surcommunique tous par des moyens d'Instagram, de Facebook, des toutes sortes de choses qui font que ce soit par les photos, par les mots, en tout cas... à distance, on peut aujourd'hui tout savoir sur tout, même si on est paumé dans un désert, pour peu qu'on connecte quelque part. Et cette surconnexion, c'est quelque chose qui m'a semblé être... l'actualité étant ce qu'elle est, je me suis dit, mais la proposition dans le roman de Camille me paraissait très, très, très intéressante. Et je crois qu'en effet, on a tendance, quand on communique par les réseaux sociaux, à se mettre en valeur. Donc, et puis, ça peut glisser jusqu'à s'inventer une vie, s'inventer être quelqu'un d'autre, mettre une photo de quelqu'un d'autre, parler à la manière de quelqu'un d'autre. Et finalement, il peut y avoir quelque chose de très vertigineux là aussi et de très exaltant à pouvoir être, à vivre une vie qui n'est pas celle qu'on vit, qui peut-être est une vie plus ennuyeuse, plus répétitive. Là, en l'occurrence, elle prend une jeune fille et elle crée un avatar, sauf qu'elle s'enferme tellement dans ce mensonge et qu'elle ne peut se démasquer, puisque derrière cette femme, ce n'est pas une jeune fille de 25 ans. Mmh. Ça m'a paru être quelque chose de très, très cinématographique. Quoi.
Alors bon, c'est vraiment une nouvelle pathologie. Vous avez contacté des médecins pour essayer d'en savoir davantage ?
Oui, parce que déjà, elle s'adresse à une psy. Hein. L'histoire est contée à rebours. Donc, c'est vrai que j'ai... Alors, certains me disaient qu'on ne mesurait pas encore les pathologies parce que c'est trop tôt. Voilà, on voit que c'est souvent des grandes formes de solitude parce que c'est vrai que quelques années, vous étiez seul chez vous. Bah, vous étiez seul chez vous. La radio ou la télé était pour vous accompagner. Mais aujourd'hui, on peut, en étant seul chez soi, connecter avec le monde entier. Et on peut se faire des amis virtuels, ce qu'on appelle le mot ami virtuel. Et c'est vrai que ça donne le sentiment à certaines personnes de sortir de leur solitude. Mais finalement, ce n'est que...
Ça les enferme.
Oui, ça les enferme. Hein, parce que c'est... Qu'est-ce que c'est un ami virtuel ?
Et à ce moment-là, Juliette Binoche, pour ne pas la citer, c'est quand même elle, le centre... De votre film. À quel moment est-elle arrivée dans le projet et a-t-elle participé à ce processus de création ?
Alors, elle est arrivée très tôt dans le projet parce que c'est vrai que quand j'ai évoqué à Camille Laurence à l'époque les actrices possibles, elle était en tête de liste, que j'avais très envie de travailler avec elle, qu'il me semblait que les multiples facettes de ce personnage, pour les interpréter, Juliette était la comédienne. Et c'est vrai que quand je lui ai proposé, ça a été très vite. Elle a lu rapidement parce qu'elle a été assez exaltée par le sujet du film. Et puis elle m'a répondu en quelques heures en me disant mais oui, je veux jouer cette Claire multiple. Et ensuite, c'est déjà quelqu'un qui travaille énormément, Juliette, qui prépare énormément, qui s'implique énormément, en même temps qui est très très respectueuse à la fois de la mise en scène mais aussi de l'équipe. Et qui a une vraie vision du film, pas une vision juste liée à celle de son personnage et du parcours de son personnage. Non, elle a une vraie vision du film, ce qui donne une grande force à son travail. Donc on a vraiment travaillé main dans la main. Je dois dire qu'on s'est très très bien entendu, que c'était très fraternel et que encore aujourd'hui, dans le travail de la promotion de ce film, on a beaucoup de plaisir à le partager.
Ça, c'est surprenant, c'est que Claire, donc son personnage, ne connaît pas Instagram. Or, il se fait que Juliette, elle aime bien Instagram.
Et c'est assez récent, hein, faut dire. Mais c'est vrai qu'elle.
Mais il travaille.
Je dois dire que. Non, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que. Oui, c'est vrai qu'alors que dans le film, cette prof de français en littérature comparée, et c'est pourquoi c'est sans doute intéressant qu'elle dysfonctionne, parce que justement, elle n'est pas attendue là. Voilà, le mot Insta n'est pas un mot qui résonne forcément dans sa tête. Alors, mais c'est vrai que Juliette a trouvé... oui, je crois qu'elle trouve ça très ludique. Elle s'amuse beaucoup avec... et puis, c'est une manière de la découvrir aussi, de la rendre accessible. Je crois qu'elle a quelque chose d'assez amusant à la voir.
Ça peut être déroutant, finalement, pour le public de sentir se rapprocher alors que, parfois, il faut peut-être maintenir les distances, non ?
C'est ça, c'est un peu le... Moi là-dessus, je pense que... on est dans un monde où on surcommunique. À force de surcommuniquer, les choses deviennent plates, quoi. Il y a moins de mystère. Alors, c'est vrai que, en même temps, tout le monde vous dit, mais si vous ne communiquez pas, vous n'existez pas. Alors, les gens préfèrent surcommuniquer. La peur de ne plus exister. Les réseaux sociaux, ça nous donne le sentiment d'exister. On en parle dans le film, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt ? Elle le dit. Hein. Moi, je me rends compte que finalement, les réseaux restent encore là. Les Instagram, les comptes. Ça s'est arrêté à une photo, ça s'est arrêté à un post. Mais c'est là, c'est présent, c'est encore présent. Et souvent, c'est difficile même de faire le deuil du virtuel. Il y a le deuil du réel à faire, mais même le deuil du virtuel. Retirer un compte Instagram, c'est tuer une deuxième fois, d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même fou quand on pense ça.
Alors face à elle, nous avons justement la psy, c'est Nicole Garcia, que vous malmenez quand même un petit peu, en tout cas.
Pourquoi vous trouvez que je la malmène ?
Mais elle a voulu créer des doutes quand même.
C'est-à-dire que c'est une, là aussi, c'est une psy qui d'une certaine manière, va un peu dysfonctionner, puisqu'elle a une sorte d'empathie, ce qui est en général rarement le cas, mais pour en avoir parlé avec certains psy-amis, ça arrive qu'un psy puisse avoir une empathie, puisse être touché. Là, je crois qu'il y a chez la psy du film et chez Nicole Garcia une forme d'effet miroir dans ce que lui raconte Claire, qui lui renvoie à son propre rapport au temps et qui fait que, d'une certaine manière, elle est malmenée par les mots, malmenée par la situation, et en même temps, c'est aussi ce qui fait que le cinéma peut raconter ce genre de choses. On a le droit de le montrer, je veux dire.
Alors bon, les femmes de 50 ans, pour l'instant, c'est un sujet bateau, dirais-je.
Ça, si vous voulez, moi, j'ai envie de vous dire, on parle de femmes invisibles. C'est triste comme moi, la femme invisible. Voilà, et j'en parlais avec un journaliste tout à l'heure qui me disait, en parlant de sa propre femme, qu'elle lui a dit à un certain âge, j'ai l'impression aujourd'hui d'être invisible, de ne plus être regardé. Je pense que chez les garçons, c'est quelque chose qui se pose moins parce qu'on ne nous habitue pas, enfants, on ne nous dit pas que t'es beau, que t'es beau. À une petite fille, en lui passant son temps, la meilleure chose qu'on puisse lui dire, c'est « mais qu'est-ce que t'es belle, quoi ?» Jusqu'au jour où on ne lui dit plus. Et donc, ce que j'aime, moi, dans cette idée, dans ce personnage, c'est que c'est quand même malgré tout une femme qui ne renonce pas à son désir. Et c'est vrai que ce sujet-là, il me dépasse un peu. Hein. Oui. C'est vrai que quand on entend Yann Moix parler ou d'autres et de voir les polémiques que ça crée, je me rends compte d'une certaine manière, que ça résonne complètement avec le film et que le film parle de ça parce que elle a 50 ans et elle prend un avatar beaucoup plus jeune. Donc ça parle de ça, inévitablement.
Vous avez un beau travail avec Gilles Porte, votre directeur de la photo. C'est assez impressionnant quand même. Vous avez longuement parlé.
Si vous voulez, on venait de faire un film en Sibérie ensemble. Donc c'est vrai qu'on était passé des grandes contrées en extérieur permanent. Et là, on s'est retrouvé à l'inverse, en intérieur. On a beaucoup travaillé pour essayer de trouver une esthétique au film. D'abord, filmer Paris d'une autre manière, éviter le haussmannien, éviter les imageries romantiques ou romanesques de Paris, pour essayer de montrer un Paris, un nouveau Paris, un Paris très différent. En même temps, on a beaucoup travaillé sur le rapport à l'image au sens du miroir, du reflet, parce que finalement, quand on est devant un ordinateur, on est en même temps à l'intérieur de l'ordinateur, mais en même temps, c'est un effet miroir, on se voit à l'intérieur. Donc on a essayé de construire le film à travers ce travail d'effet miroir et de lui trouver une esthétique assumée, en travaillant sur des couleurs aussi, un bleuté, un peu virtuel, en même temps. C'est vrai que ça a été un travail...
La scène de la baignoire est quand même assez
époustouflante. En travaillant sur le masque que l'eau lui crée sur le visage, les plans de drone aussi qu'on a fait à Beaubourg, en suspension. C'est vrai que moi j'avais envie de vertige et j'avais envie de faire du cinéma. Voilà. C'était un sujet dans lequel j'avais l'impression qu'il fallait qu'il y ait une proposition. Il y a une dimension très thriller dans le film, très assumée d'ailleurs. Fabriqué, qui n'a pas rien à voir avec certains films d'Hitchcock, Vertigo ou d'autres.
Alors, je crois qu'il faut quand même parler du producteur, de Michel Saint-Jean, c'est la troisième fois que vous travaillez avec lui.
Oui, L'Empreinte de l'Ange, comme un homme,
C'est un beau travail, une bonne collaboration quand même.
Ah oui, je dois dire que j'avais déjà la chance d'avoir un producteur qui est aussi un grand distributeur par Diafana, donc c'est vrai que d'être accompagné à ces deux endroits-là, de la production et de la distribution, c'est un luxe. Je crois que on a, comme souvent dans les belles rencontres, une sensibilité commune et que on est attiré vers les mêmes univers. On a un goût pour le cinéma commun. Et c'est vrai que quand le couple metteur en scène producteur fonctionne bien, c'est peut-être plus facile d'arriver à faire des bons films. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, que je respecte beaucoup, à la fois dans son parcours, ses choix, et dans la place qu'il me donne, à la fois la confiance qui grandit entre nous, on a très envie encore de continuer.
Alors Berlin, C'est un choix, c'est un appel de la part des organisateurs. Comment ça se passe?
Écoutez, non, ils nous ont. Et voilà, ils ont vu le film. Alors, si vous voulez, c'est amusant parce qu'ils nous ont vu le film, ils nous ont proposé d'être dans la programmation. Mais il y avait un petit couac, c'est qu'ils proposaient parallèlement aussi à Juliette d'être présidente du festival, ce à quoi je pensais qu'elle avait tout à fait raison de l'accepter, que ça avait du sens. Donc, finalement, il y a un compromis qui s'est trouvé où le film est présenté hors compétition, puisqu'elle ne peut pas être jugée partie, mais malgré tout, en sélection officielle, dans un festival qui a son importance. Je dois dire que le film, d'après ce qu'on me dit, se vend très très bien à l'international, et il a l'air de devoir faire le tour du monde, ce qui me rassure aussi sur sa thématique, parce que je pense qu'elle dépasse les frontières,
Tout à
qu'elle
fait.
Résonne autant au Chili qu'en Allemagne ou en Espagne. Donc, non, et puis bon, c'est très festif de pouvoir montrer, et assez rare, un film dont l'héroïne est la présidente du jury.
Ça finit plus, un grand merci en tout cas. Et donc, on rappelle que celle que vous croyez sort le 6 mars.